RFI, 19h30 à Paris et Cotonou, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est lors de la première édition d'Afrique Soir de ce mardi. Elle vous est présentée par Paul Lancin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, au Bénin, les assassins présumés du syndicaliste et opposant urbain Daniveau. De nouveau devant la justice, 7 ans après le début du procès. Les accusés nient les faits et toute implication, ils assurent avoir été utilisés. L'avocat français de Boualem Sansal sans nouvelles de son client depuis 2 semaines. L'écrivain franco-algérien est détenu depuis la mi-novembre. En Algérie, Maître Zimré veut désormais saisir la justice des Nations Unies. Un flou total sur le potentiel envoi de soldats ougandais à Djouba. C'est ce qu'avait annoncé le chef des forces armées ougandaises, mais la capitale du Soudan du Sud dément. Et puis, dans un peu plus d'une heure, début d'une soirée exceptionnelle de Ligue des Champions de foot sur RFI, Victor Missistrano pour faire le point. Et puis, dans la deuxième partie d'Afrique Soir, suite de notre série de reportages sur le retour du calme sécuritaire dans la région de Maïdougouri au Nigeria. Et puis, la chronique musique avec DJ Facemaker. C'est un procès mis en sommeil pendant 7 ans au Bénin. Depuis aujourd'hui, les assassins présumés d'Urbain Daniveau font de nouveau face au tribunal de première instance de Cotonou. Le syndicaliste et opposant est décédé en 2010 sous la gouvernance de l'ancien chef d'État béninois Thomas Boni Yayi. La première journée d'audience a été consacrée aujourd'hui essentiellement à la déposition des deux présumés coupables qui sont en détention depuis 15 ans. Les accusés ont catégoriquement nié les faits et toute implication et ont raconté qu'ils avaient été en fait utilisés, Jean-Luc Aplogan.
La déposition la plus attendue était celle du féticheur Kodjo Alofa. C'est près de son domicile, un mois après la disparition du syndicaliste, que la police a exhumé la dépouille d'un homme, présenté comme celle de Urbain Daniveau. Des images du féticheur à genoux près du corps découvert, avouant le crime, avaient circulé à l'époque. Devant la cour aujourd'hui, il a déclaré n'avoir jamais tué Urbain Daniveau. J'avais fait cet aveu parce qu'on m'a demandé de le faire contre promesse. Il poursuit, c'est en prison où j'étais détenu pour vol de moto qu'on m'a proposé ce rôle contre la promesse d'une forte somme d'argent et d'une libération 4 mois après. En répondant aux questions, son accusé, lui, cite des noms de personnalités importantes de l'époque. Tous deux affirment avoir été traités par ces derniers avec attention et délicatesse en prison. En dehors des visites et des cadeaux, le féticheur avait même droit à des virées nocturnes arrosées. La famille d'Aïvo était présente dans la salle. Elle attend avec beaucoup d'intérêt la déposition des témoins et surtout les confrontations. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Le Sénégal et le Maroc vont désormais pouvoir porter assistance aux détenus emprisonnés de part et d'autre. Ces ressortissants condamnés vont aussi pouvoir être transférés dans leur pays d'origine s'ils le souhaitent. 2 mesures prévues dans le cadre d'une convention entre les deux pays. L'Assemblée nationale sénégalaise vient d'adopter à l'unanimité aujourd'hui une loi autorisant le président de la République à ratifier ce texte. Selon Amadou Ba, il devenait urgent d'adopter cette convention signée il y a maintenant 21 ans. Il est député du PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal.
C'est une convention qui date de 2004. Hein. Il n'y avait pas autant de Sénégalais vivant au Maroc. On parle quand même de 200 000 personnes vivant au Maroc, dont près de 300 qui sont un peu dans les liens de la détention. Donc il était vraiment urgent qu'on signe, qu'on ratifie cette convention qui permette la protection consulaire, l'assistance donc aux personnes qui sont entre les mains de la justice et surtout le transfèrement de ceux qui sont condamnés.
Qu'en est-il de Macky Sall ? Son nom a été évoqué à plusieurs reprises. C'était une erreur de penser qu'il pouvait y avoir un lien entre cette loi et...
Oui, son nom a été évoqué à tort parce que ce n'est pas une convention d'extradition. C'est pour vraiment l'assistance et le transfèrement de personnes détenues. Ce n'est pas une convention d'extradition. Par contre, Madame la ministre a bien souligné qu'il y avait des projets avec le Maroc pour examiner notamment ces questions-là. Donc l'extradition viendra à son heure, mais c'est en discussion avec les autorités marocaines.
Amadou Ba au micro de Léalisa Westerhoff. On rappelle que Macky Sall vit au Maroc depuis son départ de la présidence l'an dernier. Les autorités sénégalaises ont promis qu'il ferait face à la justice. Boualem Sansal n'a plus donné de nouvelles depuis maintenant 2 semaines. C'est ce que dit aujourd'hui à RFI François Zimré, son avocat français. L'écrivain franco-algérien est détenu en Algérie depuis mi-novembre. Il est poursuivi pour des déclarations faites en France à un média réputé d'extrême droite et considéré considérée comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Maître Zimré dénonce ce qu'il qualifie de détention arbitraire. Il annonce aussi saisir les Nations Unies. Écoutez.
J'attends toujours la réponse à mes deux demandes de visa et je suis obligé de me rendre au constat que je ne les ai pas eues, que je n'ai pas pu me rendre auprès de mon client, que je n'ai pas pu accéder au cabinet du magistrat instructeur, que je n'ai pas pu voir les charges qui pèsent contre lui, que par conséquent, sa défense est aujourd'hui impossible. Et lorsqu'une défense est impossible, il ne peut pas y avoir de procès équitable. Et s'il n'y a pas de procès équitable, la détention est arbitraire. Et puisque la détention est arbitraire, nous allons saisir les organes de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, chargés d'apprécier le caractère arbitraire d'une détention, chargé de dénoncer les violations des traités définissant le procès équitable. Et nous envisageons de le faire pour toutes les grandes instances multilatérales auxquelles l'Algérie est partie, qu'il s'agisse de l'Union africaine, qu'il s'agisse de la procédure article 104 de l'UNESCO également. Partout où cela sera possible, eh bien, nous saisirons les voies diplomatiques et judiciaires pour dénoncer cette détention arbitraire.
Maître François Zimré avec Pierre Firsion. En République démocratique du Congo, plusieurs cadres du parti de l'ex-président Joseph Kabila ont été auditionnés hier pour des soupçons de collusion avec le M23. Aubin Minaku, le numéro 2 du PPRD, ainsi que le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari et son adjoint Ferdinand Cambéré ont été entendus pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa, même s'ils démentent ces accusations, Pauline Azidi.
Les trois hommes ont été entendus séparément par un magistrat militaire en présence de l'auditeur supérieur, selon Ferdinand Cambéré. Les questions ont surtout porté sur des déclarations tenues par Aubin Minaku lors d'une réunion du PPRD qui a évoqué la fin des opérations clandestines. Les trois cadres disent s'être expliqués sur ces propos qui, selon eux, ne sont pas liés au groupe armé M23 AFC. « Nous sommes une opposition républicaine », affirme Ferdinand Cambéré, « dans la reconquête du pouvoir, mais dans le respect de la Constitution et par les voies démocratiques », ajoute-t-il. Ils sont donc ressortis libres dans la soirée après avoir signé leur PV d'audition. Selon la direction du PPRD, aucune infraction n'a été retenue contre ces cadres. Néanmoins, la direction générale de la migration a émis une interdiction de sortie du territoire contre Aubin Minaku, Emmanuel Chadari et Ferdinand Cambéré. Les membres concernés disent n'avoir pas reçu le document qui a circulé sur les réseaux sociaux et dont la DGM n'a pas démenti l'authenticité jusque-là. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Un imbroglio autour du possible envoi de forces ougandaises à Djouba. Le chef de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé ce mardi l'envoi de forces spéciales dans la capitale du Soudan du Sud officiellement pour la sécuriser. Le fils du président ougandais, Yoweri Museveni, dit soutenir Salva Kiir. Il a déclaré que toute action contre le président du Soudan du Sud serait perçue comme une déclaration de guerre par Kampala. Le dirigeant sud-soudanais en conflit avec son vice-président Riek Machar. Des affrontements entre leurs deux camps dans l'état du Haut-Nil au nord-est du pays font en effet craindre un retour de la guerre. Mais nouveau rebondissement après l'annonce ougandaise, Djouba a démenti Christina Okello.
Annoncé sur X par Muhoozi Kainerugaba, le déploiement de troupes ougandaises à Djouba a été confirmé par le porte-parole de l'armée ougandaise. Les forces spéciales arrivées il y a deux jours sont censées stabiliser la capitale sud-soudanaise et protéger les citoyens ougandais et étrangers sur place. Mais mystère sur l'ampleur de cette mission, aucun chiffre n'a été communiqué sur le nombre de troupes ni sur la durée de présence. Et sur le démenti de Djouba, silence du porte-parole de l'armée qui a esquivé la question avant de refuser de préciser si les troupes ougandaises ont été envoyé ailleurs qu'à Djouba. Ce flou alimente les interrogations sur la nature exacte de cette intervention militaire. Alors que les tensions s'intensifient à Djouba, arrestation de ministres proches de Riek Machar, affrontement dans l'état de Haut-Nil, une situation jugée alarmante par l'ONU qui redoute un effondrement de l'accord de paix de 2018 signé après 5 ans de guerre civile et près de 400 000 morts.
Christina Okello. Au Mozambique, le bras de fer entre l'opposant Venancio Mondlane et le président Daniel Chapo se déplace sur le terrain judiciaire. L'opposant a été entendu aujourd'hui par le procureur général. Son nom apparaît dans 8 affaires ouvertes lors du mouvement de contestation qui avait suivi la présidentielle d'octobre dernier, remportée par Daniel Chapo. La plupart concernent les destructions de biens publics, mais Venancio Mondlane est aussi accusé de subversion et trouble à l'ordre public. Son audition a duré toute la journée, Gaëlle Lalex.
La confusion régnait encore sur l'avenue Vladimir Lénine à Maputo en fin d'après-midi. Pendant plusieurs heures, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes afin de disperser des manifestants venus soutenir Venancio Mondlane devant le ministère public. L'opposant est entré dans le bureau du procureur à 9h du matin pour y rester toute la journée. « Je suis confiant », avait-il déclaré à la presse lors de son arrivée, après avoir accusé pourtant le ministère public d'être partial et partisan. Son nom est cité dans 8 affaires. La plupart concernent la destruction de biens publics lors de la contestation post-électorale. En novembre, le procureur général avait demandé une indemnisation de plus de 500 millions de dollars. Venancio Mondlane est également accusé de subversion après avoir publié en janvier ce qu'il avait baptisé son premier décret présidentiel. Décret dans lequel il légitimait notamment l'usage de la violence contre les forces de police. De son côté, l'opposant a porté plainte aujourd'hui contre le président Daniel Chapo. Il l'accuse d'incitation à la violence selon la plainte que RFI a pu consulter. Gaëlle Alex Nairobi, RFI.
Pandémie, c'est un terme que l'on associe aujourd'hui directement au Covid-19. La première fois que l'OMS utilisait ce qualificatif à propos du coronavirus, c'était il y a tout juste 5 ans, le 11 mars 2020. La circulation de ce nouveau virus n'avait épargné aucun continent et a entraîné dans son sillage des confinements, couvre-feux, entre autres mesures de prévention. Sur le continent africain, une catastrophe avait été annoncée, le système de santé risquait de s'écrouler. Finalement, le pire a été évité, même si le bilan reste incertain et contrasté selon les pays, Paul Lorgerie.
Le continent africain a été relativement épargné par la maladie. Arrivé en Égypte en février 2020, le virus a ensuite touché les pays du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, puis l'Afrique du Sud. Il convient pour autant de noter que les données démontrent une certaine hétérogénéité de ces effets selon les pays. Effet surprenant, les États les plus développés du continent semblent avoir été les plus touchés. Ce fut par exemple le cas pour l'Afrique du Sud, qui enregistra le plus grand nombre de décès, ou encore la Tunisie et le Maroc. Selon des épidémiologistes, la jeunesse de la population conjuguée à son exposition quotidienne à différents parasites aurait été un facteur de la résistance au virus. À prendre en compte également les mesures mises en place par les différents gouvernements et l'aptitude de leur système de santé à prendre en charge certaines épidémies comme le paludisme et Ebola, sans oublier les capacités à tester la population. Le nombre de tests ayant été parfois limité, certaines personnes sont passées à travers les mailles du filet. Pour autant, les effets du Covid-19 se font encore ressentir aujourd'hui, notamment sur l'économie des pays et l'éducation des enfants qui n'ont pas pu se rendre à l'école souvent pendant plusieurs mois.
Paul Lorgerie qui évoquait à l'instant ce bilan encore assez flou à ce jour. Aujourd'hui, coordinateur adjoint pour la réponse contre le Mpox à l'Africa CDC, Yap Boumdeu était à l'époque chef de la réponse pour le Covid-19 au Cameroun pour la plateforme de recherche Épicentre. Écoutez son analyse au micro de Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
On a près de 8,6 millions de personnes qui ont été affectées par la Covid. Il y a près de 170 000 personnes qui en sont décédées. Mais ça, ce sont les chiffres qui ont été répertoriés. Quand on a fait ce qu'on appelle des enquêtes de séroprévalence, on s'est rendu compte que beaucoup plus, voire 4 fois plus en fonction des pays, avaient été exposés au virus de la Covid. Donc il est difficile de pointer le chiffre exact.
On a dit aussi qu'il existait dans plusieurs pays d'Afrique une expertise en matière de gestion des épidémies, de traçage de cas contacts notamment. Est-ce que pour vous, ça a pu jouer aussi?
Oui, c'est certainement la capacité de répondre aux épidémies qui est le quotidien de la majeure partie des pays africains. On va parler du palu, on va parler de la rougeole, on va parler d'Ebola pour certains. Donc cette habitude-là a fait que certains pays étaient préparés ou alors plus adaptés à répondre à l'épidémie. Donc ça contribuait. Même dans les démarches, tous les pays n'ont pas eu le confinement. Le Cameroun, par exemple, et d'autres pays n'ont pas confiné. Ils ont plutôt investi dans la réponse avec des tests rapides massifs permettant de pouvoir adapter la réponse à l'environnement du pays, à la culture, mais également à l'impact qu'on voulait limiter dans certains pays. Donc ça a permis à l'Afrique, son expérience lui a permis de pouvoir ajuster, voir ce qui pouvait marcher, et au final, elle s'en est plutôt bien sortie.
La pandémie de Covid a mis en lumière la très forte dépendance du continent africain en matière de médicaments et de vaccins, et le fait qu'elle ne produit que 1 à 2% des vaccins dont elle a besoin. Est-ce que c'est toujours le cas 5 ans plus tard? Est-ce que ça s'est amélioré ou pas?
Le pourcentage de vaccins produits en Afrique pour répondre à nos épidémies reste près de 2%, 3%. Par contre, les initiatives qui ont commencé pendant la Covid pour renforcer la production locale de vaccins a évoluer. Il y a des agences qui ont été créées, des consortiums qui ont été mis en place pour favoriser la production locale de vaccins, mais également de médicaments et aussi de tests diagnostiques. Donc cette initiative va se poursuivre. Là, on est en plein Mpox et on est ravis de voir que des pays comme le Maroc, comme le Sénégal vont produire des tests rapides, des tests moléculaires pour répondre à cette épidémie. Donc il y a un déclenchement pendant la COVID qui se poursuit, mais comme vous l'imaginez, ces initiatives prennent du temps et surtout demandent beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément disponibles aujourd'hui.
Le professeur Yap Boum 2, invité de Nicolas Sueur dans Afrique Midi. C'est le moment de briller pour les meilleures équipes européennes de football. Le début ce soir des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Quatre matchs au programme aujourd'hui, une grande soirée à vivre en direct sur RFI avec notamment le choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Ça sera même en intégralité sur notre antenne. Cédric De Oliveira sera on field. Et en studio avec Patrick Juillard, il y aura Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Vous allez prendre l'antenne dans moins d'une heure maintenant. L'enjeu, eh bien, il est énorme avec cette affiche de rêve.
Oui, de savoir tout simplement qui des deux équipes va quitter cette Ligue des Champions dès ce soir. Pour leur avantage aux Reds, le Paris Saint-Germain est en ballotage défavorable. Les hommes de Luis Enrique ont dominé le match aller dans des proportions impressionnantes, mais sans concrétiser face aux leaders du championnat d'Angleterre et à leur gardien, Alisson. À l'arrivée, succès 1-0 au Parc des Princes pour l'équipe de Mohamed Salah, invisible de son côté. L'Égyptien qui aura à cœur de se montrer cette fois à son avantage dans cette seconde manche. Sensation de la première partie de saison en Europe, Liverpool va vouloir afficher un tout autre niveau dans son antre d'Anfield. En face, les Parisiens y croient, ils sont persuadés depuis une semaine de pouvoir s'imposer et rejoindre les quarts de finale. D'ailleurs, c'est en quart l'an dernier que le PSG, battu à l'aller par le Barça, avait réussi à s'imposer en Catalogne 4-1. Cela montre que tout est possible. Le FC Barcelone, qui d'ailleurs joue en ce moment même et semble bien parti pour se qualifier 3-1 face au Benfica Lisbonne à la mi-temps. C'est bien parti aussi pour l'Inter Milan, vainqueur 2-0 à l'aller et qui reçoit tout à l'heure le Feyenoord de Rotterdam. De son côté, battu 3-0 à Munich, le Bayer Leverkusen doit tout renverser face au Bayern. Paul, coup d'envoi de ces trois rencontres, dont Liverpool-PSG, à 20h, temps universel.
Merci pour nous avoir déroulé ce superbe programme, Victor Missistrano. Il est 18h47 en temps universel. Merci d'écouter la radio du monde. Une lente reconstruction après le traumatisme Boko Haram. RFI vous propose ce soir le second et dernier épisode de notre série à Maïdougouri. C'est dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. Il y a 15 ans, débuté dans le bassin du lac Tchad, l'insurrection du groupe djihadiste. Depuis, la situation sécuritaire s'est grandement améliorée. Des millions de déplacés et de réfugiés peuvent retourner dans leur communauté d'origine. Les jeunes, notamment, aspirent à construire leur vie ici désormais. Notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis, a rencontré deux d'entre eux. Ils s'appellent Ajara et Saleh. Ils ont la trentaine, sont entrepreneurs et n'ont jamais envisagé de partir.
Saleh Babagana répond à un client sur sa montre connectée. Revendeur de téléphones d'occasion dans les rues de Maïdougouri il y a encore 4 ans, ce grossiste distribue désormais des marques premium de smartphones dans une boutique climatisée. À 28 ans, Saleh n'a pas du tout l'intention de quitter le Nigeria.
Tout a commencé comme un pari pas très sérieux. Un ou deux clients nous ont fait confiance et maintenant nous sommes bien établis en tant qu'entreprise. Beaucoup de nos clients viennent des pays voisins qui utilisent le CFA. Ils achètent nos produits au prix de gros, entre 1000 et 2000 pièces de smartphone. Et parfois jusqu'à 5000 appareils d'une certaine marque de téléphone ont été achetés ici.
Comme Saleh, Ajara a vécu toute son adolescence à Maïdougouri. Sous ses yeux, elle a vu mourir un camarade de classe, puis échapper à un attentat à la bombe. Malgré ses traumatismes liés à Boko Haram, cette dirigeante de PME n'a jamais envisagé de quitter sa ville.
Avant d'ouvrir mon magasin, je faisais mes affaires à la maison. À cause des explosions de bombes et de Boko Haram, c'était la panique. Les gens s'enfuyaient de chez eux. Cela n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, nous sommes bien débrouillés pour survivre.
Aujourd'hui, Ajara emploie une dizaine de personnes et les parfums d'intérieur qu'elle crée s'exportent au Niger, Cameroun, mais aussi au Ghana et jusqu'au Canada. Adjara se sent épanouie en vivant et en travaillant à Maïdougourou.
J'ai choisi de rester pour inspirer les jeunes femmes d'ici. Beaucoup ont l'impression qu'on ne peut pas s'accomplir et que nous ne pouvons pas y arriver dans la vie. Alors que ce n'est pas le cas. Quelle que soit notre personnalité, on peut réussir chez soi. Tout ce qu'on souhaite dans la vie, on peut le réaliser. Alors migrer, ce n'est pas une option pour moi.
Et Adjara ne comprend pas pourquoi au Nigeria, des dizaines de milliers de gens de sa génération se risquent à tout sacrifier pour un visa pour l'Amérique ou pour l'Europe. Moïse Gomis, de retour de Maïdougouri, RFI.
Dernier épisode de notre série de reportages à Maïdougouri, au Nigeria, à retrouver sur RFI.fr. À suivre juste après cette édition d'Afrique Soir, le journal international. Et puis ensuite, votre émission Accent d'Europe pour évoquer les relations très tendues en ce moment entre l'Espagne et le Mexique sur fond de débat sur la colonisation et la place des peuples indigènes. La nouvelle présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, réclame des excuses à Madrid pour la conquista, c'est-à-dire la découverte et la conquête de l'Amérique en 1492. Écoutez ce qu'en dit cette jeune mexicaine.
Entre l'Espagne et le Mexique, c'est un peu une relation de « je t'aime, moi non plus ». Je crois que nous, les Mexicains, sommes très attachés à notre passé. En Espagne, ils devraient connaître un peu mieux notre histoire pour qu'ils sachent comment les choses sont réellement et non pas comment ils veulent les voir.
Un reportage complet à écouter tout à l'heure à 20h10 dans Accent d'Europe ou en podcast sur le site de RFI et l'application Pure Radio. Et puis ne manquez pas ce soir, soirée spéciale Ligue des Champions de football, le début des huitièmes retours avec en direct et en intégralité Liverpool-Paris Saint-Germain. La prise d'antenne vers 20h40, temps universel.
RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur officiel d'Afrique Soir vient de faire son entrée à mes côtés dans ce studio pour sa sélection certifiée Afroclub. Je veux bien évidemment parler d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Paul et bonsoir à tous.
Votre premier rendez-vous de la semaine s'ouvre avec le duo de rappeurs camerounais Kossi et Stanley Eno sur leur titre Amigo.
Oui, Kossi et Stanley Eno qui ont surpris tout le monde en joignant leurs forces pour donner naissance à Amigo, une collaboration qui a immédiatement attiré l'attention du public, d'autant plus que dans la vidéo qui accompagne le morceau, on voit clairement l'alchimie transparaître entre les deux rappeurs. Amigo confirme la présence ou affirme la présence de Kossi sur la scène musicale panafricaine, associée à l'image de Stanley Eno, figure emblématique du rap camerounais, reconnue pour ses collaborations à l'international.
Hola Amigo, je suis dans le club avec tous mes bagandos. N'aimais pas mes bagala au sommet dans mon sac à dos. Si tu veux me va venir chez Casamigo. Chez Casamigo, amigo. Minou, 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 minou. Danse pour moi comme c'était ma peau. Passe ton baiser, c'est barracuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 8, Juju. Quand moi j'ai du mambo à tous les Mouna Salou. Pays c'est le code, ne jette pas les cailloux. Les cailloux.
Le titre Amigo de Kossi et Stanley Eno. C'est un peu la soirée des duos. Hervé place un autre duo qui veut son pesant d'or. C'est la sud-africaine Tyla et le vétéran jamaïcain Sean Paul.
Oui, Dirty Paul même pour les intimes. Il a donc rejoint Tyla pour lancer officiellement la saison estivale alors que le printemps n'est pas encore arrivé dans l'Hexagone. Et le remix de Push to Start colle parfaitement à leur croisade. C'est aussi une façon pour Tyla de rendre hommage à la culture ragga dancehall des années 2000. En tout cas visuellement, puisque la vidéo s'inspire du célèbre hit de Sean Paul I'm Still In Love With You, sorti en 2002, il y a déjà presque 25 ans. Notez que Tyla est passée derrière la caméra pour ce titre qu'elle a co-réalisé aux côtés de Taylor Fauntleroy. Avec Sean Paul, le morceau prend une dimension encore plus universelle. The way we move, skin on the skin. No separation, need no conversation, na na na. On everything, it's automatic going several to a high, na na. Right, and wishing the wheels will fall off. Time is ticking, it's ticking you too long. Right before I decide to go.
Push the stone. I like you hurt me. Only serve it up if you deserve me. Yeah. Shake it up like a.
et Sean Paul, T-Paul, pour l'ambiance afro-jamaïcaine. Tout autre ambiance à présent avec le chanteur nigérian Patoran King, qui donne un coup de projecteur à sa chanson Black.
Oui, c'est bien le cas de le dire, puisque Patoran King est parti chercher le morceau Black de Derrière les Fagots. À l'origine, ce titre figure au crédit de l'album Wilmer que Patoran King a publié en 2019. C'est donc près de 6 ans plus tard qu'il se décide enfin à mettre ce morceau en lumière lors d'un séjour à Londres, sans que cette sortie ne soit liée au fameux Black History Month qui est célébré chaque année au mois de février aux États-Unis et au Royaume-Uni. Patoran King a déclaré « Je nous aime, nous sommes tout ce que nous avons, nous sommes puissants, nous ne faisons qu'un, il est temps de briser le cycle, aimons-nous et soutenons-nous davantage. »
Yeah, black soul black, black scold black, too many lies, black told black, moving forward in life, black hold back, black hate black, black don't rate black, black underrate black, even some black don't wanna see some black people date black, black beat black, black hate black, black cheat black, black maltreat black. Black kill black,
yes.
Black don't feel black, when black give black, black want to steal back, black don't support black, black extort black, black deport black, black report black, black snitch black, black bewitch black, black don't enrich black, good with black never wish black, black don't appreciate black, black never tolerate black, black relegate black, that's why black currencies depreciate black.
C'était donc Patoran King et son morceau à contre-pied Black. Bon, c'est déjà le moment de conclure l'Afro Club, mon cher DJ Facemaker, mais on va finir en beauté avec le chanteur congolais Sosé.
Oui, Sosé qui donne un successeur à sa précédente production, Tu m'imites, et le public semble avoir été conquis par Amina. En tout cas, moi je le suis et je vous suggère d'en faire autant. Amina est une composition pour les lovers et Sosé plonge dans ses souvenirs pour retrouver un amour d'enfance qui s'appelle Amina. Et comme dans les contes de fées, les tourtereaux se retrouvent des années plus tard pour enfin vivre leur histoire malgré les épreuves de la vie. Et au-delà de la romance qui est quand même très téléphonée, la chanson est de très bonne facture.
Aussi loin que je me souvienne, au collège t'étais celle pour qui j'avais le béguin. Tu me faisais chopper le l'eau avec tes notes sur la tête. C'est fou comme dit si je peux encore entendre le bruit de tes pères. Le temps file, on a grandi. T'es restée mignonne comme une berline. Ton profil me rend crazy. Écris la fin de l'histoire, ma belle. Ma ligne à ma belle.
Je te veux, Amina. Oh. Je te veux, Amina.
Yeah.
Je te veux, Amina.
Oh.
C'est avec Sosé que l'on referme en douceur les portes de cet Afro Club de ce mardi 11 mars. Vous revenez ce jeudi, Hervé, pour votre deuxième salve de nouveautés.
Oui, tout à fait, mon cher Paul. Et dans la séquence rétro, nous rendrons hommage à la chanteuse américaine Angie Stone, décédée le 1er mars dernier d'un accident de la circulation. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, mon cher Paul.
Excellente soirée, Hervé.
Et à très bientôt.
DJ Facemaker, à très bientôt. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. À la réalisation, Raphaël Lazizi. À la rédaction en chef, c'était Alexis Guilleux, épaulé par Guillaume Bédran. Merci à vous d'écouter la radio du monde.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Del Cerro, c'est le nouvel album de la chanteuse franco-malgache Mandy Le Rouge, partie explorer l'Argentine et son folklore musical. L'occasion de retrouver une voix superbe en live avec nous et de découvrir aussi l'histoire d'une compositrice invisibilisée, Antoinette Pépin.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.